le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM Plus et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport annuel d'activité des droits humains d'Amnesty International qui est sorti le 24 avril dernier. C'est-à-dire, c'est un an d'enquête, 155 pays analysés par plus de 80 chercheurs et chercheuses indépendants et indépendantes et impartiaux et impartiales. Cette année encore, nous dressons un bilan implacable des violations des droits humains partout dans le monde et nous alertons sur la défaillance des mécanismes internationaux. Chaque année, on publie la somme de nos enquêtes dans ce rapport annuel. Un rapport fort de plus de 500 pages qui alerte et qui est disponible d'ailleurs sur le site d'Amnesty International si vous voulez plus de détails. C'est un rapport qui est dérangeant aussi, celles et ceux qui bafouent les droits humains et qui préféreraient le faire dans l'ombre. C'est un signal d'alarme pour rappeler aux États qu'ils sont responsables de la situation des droits humains dans leur pays. Et c'est aussi un moyen de rendre hommage au travail des journalistes, des militants, militantes et défenseurs et défenseuses des droits humains qui luttent courageusement pour un monde plus juste et plus égalitaire. C'est également l'occasion de rappeler la force de notre travail d'enquête qui permet d'établir des faits. C'est donc un outil particulièrement précieux à l'heure où les fake news pullulent. Ce que dénonce notre rapport, c'est d'abord les civils qui sont considérés comme des pions pouvant être sacrifiés sur l'échiquier des conflits armés. En Israël et dans les territoires palestiniens occupés, au Soudan, en Éthiopie, au Myanmar, en Syrie, au Sahel, en Ukraine ou encore en République du Congo, les civils qui sont pris dans les conflits paient le prix fort sur fond de violation du droit international par les États. Ce mépris flagrant pour le droit international affiché par les États partis au conflit est exacerbé par l'incapacité des États membres des institutions internationales à mettre un terme au bain de sang infligé aux populations civiles. Cette inertie menace d'extinction l'ordre mondial fondé sur le droit créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous dénonçons également les technologies qui menacent les droits humains. Les technologies nouvelles ou existantes sont de plus en plus utilisées comme des armes au service des forces politiques répressives dans le but de diffuser de la désinformation, de dresser les communautés les unes contre les autres et d'attaquer les minorités. En cette année électorale majeure, et face au pouvoir croissant des lobbies anti-réglementation menés et financés par les géants de la technologie, ces avancées technologiques débridées et non réglementées constituent une énorme menace pour tous et toutes. Elles peuvent être utilisées comme armes au service de la discrimination, de la désinformation et de la division. Dans ce rapport, on trouve aussi les réactions les plus violentes et les plus virulentes à l'encontre de la justice de genre. En Afghanistan, les talibans se livrent à un potentiel crime contre l'humanité fondé sur le genre. En Iran, les femmes qui refusent le port obligatoire du voile sont traquées et harcelées. Aux États-Unis, 21 États ont interdit ou sévèrement limité l'accès à l'avortement, tandis qu'en Pologne, au moins une femme serait morte en 2023 pour avoir eu accès à l'avortement. Par ailleurs, l'hostilité envers les personnes LGBTI s'est intensifiée dans de nombreux pays et 62 pays ont encore des lois érigeant en infraction pénale les relations sexuelles entre les personnes de même sexe. On trouve aussi les effets des crises économiques, du changement climatique et des dégradations de l'environnement qui s'aggravent, et tandis que les membres de la nation Wet'suwet'en s'élèvent au Canada contre la construction d'un immense gazoduc traversant leur territoire ancestral, ils sont harcelés et criminalisés. Face à de nombreuses atteintes des droits humains, des personnes se sont levées pour manifester, protester et signer des pétitions pour un avenir meilleur. Grâce à leur mobilisation, des victoires et des avancées sont quand même à célébrer. De nombreuses personnes se sont donc mobilisées dans le monde entier pour exiger la protection des droits humains et le respect de notre humanité commune. Des manifestants et manifestantes sont descendus dans la rue aux États-Unis, en Pologne et au Salvador pour revendiquer le droit à l'avortement par exemple. Aux quatre coins de la planète, des milliers de personnes ont rejoint le mouvement de Jaune Fridays for Future, afin de réclamer l'abandon équitable et rapide des énergies fossiles. Notre travail de campagne a abouti à des victoires importantes. À Taïwan, à la suite du travail de plaidoyer mené par le mouvement MeToo et d'autres organisations de la société civile pour mettre fin aux violences sexuelles en ligne, le gouvernement taïwanais a adopté une modification de la loi relative à la prévention des agressions sexuelles. Bien qu'étant loin d'avoir pris toutes les mesures nécessaires, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP28, s'est prononcée en faveur d'une transition vers l'abandon des combustibles fossiles. C'était la première fois que ceci était mentionné dans une décision de la COP. En Turquie, après des années de travail de campagne en leur faveur, les quatre défenseurs et défenseuses des droits humains, pour certains membres d'Amnesty International comme Taner Kilic, İdil Ezer Özlem Dalkiran et Günal Kursun, condamnés en juillet 2020 sur la base d'accusations infondées, ont finalement été acquittés. Nouvel exemple parmi de nombreux autres, le militant afghan du droit à l'éducation Matullah Wessa a été libéré en octobre 2023 après des mois de campagne. Il a déjà passé près de 7 mois en prison pour avoir défendu le droit à l'éducation des filles et critiqué la politique des talibans interdisant aux filles de poursuivre leur scolarité dans le secondaire. Compte tenu de l'état alarmant de la situation mondiale, il faut agir de toute urgence pour redynamiser et renouveler les institutions internationales censées sauvegarder un ordre mondial basé sur le droit et les principes d'humanité. Des mesures doivent être prises pour réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies afin que les membres permanents ne puissent plus utiliser leur droit de veto sans aucun contrôle pour empêcher la protection de populations civiles et renforcer leurs alliances politiques. Les gouvernements doivent aussi prendre des mesures législatives et réglementaires fermes pour lutter contre les risques et les préjudices liés aux technologies de l'intelligence artificielle et au règne des géants technologiques. Plus particulièrement en France, on a un gros recul des droits et des libertés en 2023. Une répression violente des manifestants contre la réforme des retraites, interdiction de manifestation, mort d'un jeune de 17 ans, Naël, par un tir de la police, accentuation des discriminations, dégradation des droits des personnes exilées avec le vote de la loi Asile et Immigration. En 2023, donc, les droits et les libertés ont reculé en France. Chaque année, nous alertons sur ces reculs des droits et des libertés, en France notamment, et pourtant l'année suivante, les constats s'aggravent. Alors voici les trois sujets majeurs d'inquiétude qui ressortent de notre analyse sur les droits humains en France, l'état des libertés, les discriminations et les risques pour l'état de droit. En France, donc, les libertés reculent. L'impératif sécuritaire semble avoir pris le dessus sur la protection des libertés qui sont trop souvent restreintes au nom du besoin de sécurité. C'est d'autant plus vrai depuis que des attentats ont endeuillé la France et que la lutte contre le terrorisme justifie des mesures et des pratiques illégales en droit international. Depuis 2015, les lois sur l'état d'urgence, puis la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui a entériné des mesures censées être provisoires, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, celle sur le renseignement, etc., toutes ont inclus des mesures attentatoires aux libertés, comme autant de coups de canif législatifs dans l'édifice des droits fondamentaux. Cette liste s'est allongée en 2023 avec la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, instaurant la vidéosurveillance algorithmique. Tout porte à croire que l'intention sera, comme précédemment, de la pérenniser après la phase d'expérimentation. Et ce type de technologie de surveillance présente de vrais risques pour les droits humains. Vous pouvez d'ailleurs lire sur amnestyinternational.fr un rapport qui s'appelle « JO 2024, pourquoi la vidéosurveillance pose problème ?». On a aussi eu la loi Asile et Immigration qui a été votée en décembre 2023, qui était aussi essentiellement basée sur un narratif ultra-sécuritaire qui semble justifier toutes les entorses aux droits humains, d'autant plus facilement qu'il s'agit de personnes étrangères. En France, on a aussi beaucoup de répression au niveau des manifestations et un usage excessif de la force. En 2023, ça a été vraiment l'année de grandes mobilisations populaires, mais aussi d'interdictions abusives de manifester, notamment en janvier contre la réforme des retraites, en juillet suite aux troubles qui ont suivi la mort du jeune Naël, en octobre en soutien aux droits des Palestiniens. Lors des manifestations contre la réforme des retraites, nous avons dénoncé des arrestations abusives et un recours excessif à la force dans le maintien de l'ordre. Des armes dangereuses, dites à létalité réduite, ont cette année encore mutilé des manifestants et des manifestantes. D'usage excessif de la force, il a également été question le 27 juin dernier lorsque Naël a été tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Amnesty International a dénoncé un homicide illégal et a demandé l'abrogation de l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure qui élargit le recours à la force dans le cadre d'un refus d'obtempérer. La sécurité est la première des libertés, c'est une phrase répétée à l'envi et qui, pour ceux qui l'utilisent, relèverait du bon sens. Mais une phrase qui sous-entend de manière très dangereuse que le droit légitime à la sécurité devrait passer avant l'exercice des libertés publiques, voire que ces libertés seraient dangereuses pour la sécurité. Cette phrase ne sert plus aujourd'hui qu'à instrumentaliser la peur pour restreindre les libertés. Et c'est jamais au bénéfice des citoyens dans un état de droit. C'est donc le premier point d'inquiétude pour Amnesty International, la répression en France. Le deuxième, ce sont les discriminations qui persistent et avec ça va le déni du gouvernement. Donc un point commun entre ce sujet des restrictions de liberté et celui des discriminations, c'est le déni consternant des autorités françaises malgré les dénonciations d'agences internationales et des autorités indépendantes nationales. Le 30 juin dernier, la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies déclarait 3 jours après la mort de Nahel, qui était d'origine algérienne, tué lors d'un contrôle routier, je cite, « C'est le moment pour la France de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination parmi les forces de l'ordre. » Ce faisant, elle reprenait les critiques émises au moment de l'examen de la France devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en mai, mais aussi celles de très nombreuses autres institutions ou ONG de droits humains qui alertent depuis des années sur la question. La réponse officielle de la France a été immédiate, je cite, « Toute accusation de discrimination systémique parmi les forces de l'ordre est totalement infondée ». Ce manque de reconnaissance atteint aussi la plus haute juridiction administrative. En octobre dernier, le Conseil d'État a rendu sa décision concernant l'action de groupe intentée par Amnesty International avec 5 autres organisations de la société civile pour mettre fin au contrôle au faciès. Le Conseil d'État, tout en reconnaissant que ces contrôles discriminatoires n'étaient pas des cas isolés, a refusé de reconnaître leur caractère systémique et d'imposer à l'État des mesures pour lutter contre les contrôles discriminatoires. Le déni, c'est aussi celui qui touche la banalisation galopante du discours stigmatisant les personnes musulmanes en France. La loi séparatisme avait achevé d'installer dans le débat public un continuum entre l'islam, le voile, l'islamisme, le terrorisme. Aujourd'hui, les filles et les femmes qui portent un voile continuent d'être pointées du doigt collectivement, sans considération pour la diversité de leur parcours et de leur profil, ni pour la liberté de religion et d'expression. La déclaration de la ministre des Sports fin 2023 expliquant que les athlètes portant un voile n'auraient pas leur place dans la délégation olympique française en est un exemple. Elle est dans la continuité de la décision de plusieurs fédérations sportives d'interdire les compétitions aux sportives portant un couvre-chef. Amnesty continuera à dénoncer ces discriminations, à appeler à écouter les premières concernées et à leur donner la parole. Sur les discriminations liées aux origines ou à la religion, on aimerait que les autorités françaises aient la même prise de conscience de l'urgence et du besoin de protection que lorsqu'elles ont décidé d'être pionnières dans la protection du droit à l'IVG. Il est crucial que non seulement les pouvoirs publics, mais aussi l'ensemble de la société ouvrent les yeux sur les impacts délétères des discriminations et des discours racistes. La multiplication effrayante des actes antisémites en fin d'année dernière doit nous inciter toutes et tous à un réveil. Il est urgent de lutter collectivement contre toutes les formes de rejet, d'essentialisation, de racisme qui abîment les liens sociaux et violent des droits des personnes concernées. L'État a la responsabilité de protéger et d'assurer le respect des droits sans amplifier les divisions et la stigmatisation de certains groupes. Et le dernier point d'inquiétude, c'est qu'en France, l'État de droit, à cause de tout ça, il est fragilisé. C'est un point qui est vraiment inquiétant parce qu'on est vraiment à un point de bascule. On semble se rapprocher en tout cas d'un point de bascule de plus en plus dangereusement. Et ce point de bascule, c'est celui qui mènerait vers une remise en cause de l'état de droit et de ce qu'il permet de garantir en termes de droits fondamentaux et de sécurité juridique pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. On a par exemple le vote de la loi Asile et Immigration pour une majorité des parlementaires en décembre dernier, qui a été un choc pour les militants et militantes des droits humains. Ce n'était pas seulement parce qu'il se situait dans la continuité d'un narratif de rejet des étrangers et de non-respect de leurs droits, ou parce que c'était le 20e texte en 30 ans sur un sujet toujours plus maltraité par les responsables politiques, mais surtout parce qu'il était parfaitement assumé qu'il piétinait sans vergogne les engagements internationaux de la France et même la Constitution, sans que cela n'incite le gouvernement à le retirer. La prééminence du droit international fait partie des droits fondamentaux de l'état de droit, comme le rôle de contrôle du juge. Et ces principes sont mis en cause aujourd'hui, et de plus en plus. C'est le cas quand des responsables politiques appellent ouvertement à ne pas respecter le droit international ou une décision de justice. C'est aussi le cas quand le ministre de l'Intérieur déclare publiquement qu'il est acceptable de ne pas respecter une décision de la Cour européenne des droits de l'homme si cela permet d'expulser un ressortissant ouzbek. Cela contribue à une remise en cause dangereuse de la protection que le droit international devrait nous procurer à toutes et tous, et qui est à l'œuvre aussi dans les enjeux internationaux. L'état de droit dépend aussi de la vitalité des contre-pouvoirs, pouvoirs judiciaires, médias, mais aussi la société civile dans son ensemble. Les atteintes répétées aux libertés associatives, qui sont à l'œuvre depuis plusieurs années, sont à cet égard particulièrement inquiétantes. La dissolution d'associations devrait être un dernier recours exceptionnel et soumise à la décision d'un juge. C'est devenu une arme dégainée beaucoup trop vite et qui plane comme une menace. Les critiques contre les associations par des responsables politiques se sont multipliées, accusées d'être complices des passeurs parce qu'elles sauvaient des vies en mer ou de faire l'écoterrorisme lorsqu'elles alertaient sur le climat. En 2023, on a vu des menaces sur les subventions de la LDH, la Ligue des droits de l'homme, des attaques contre le planning familial, des critiques indignes contre le travail de la CIMAD, accusations en tout genre contre Amnesty International, bref, plein de choses comme ça, et donc cette répétition, c'est assez inquiétant. Si nous ne sommes pas encore au point de bascule, chacune de ces atteintes nous en rapproche et contribue à un état de droit dégradé, affaibli, en danger même, comme le sont nos droits. En France aussi, donc, il faut les protéger. J'ai essayé de résumer un petit peu ce que dit le rapport, en tout cas sur la France, mais vous pouvez le lire en ligne, il est disponible sur le site d'amnestyinternational.fr, vous pouvez aussi le commander, et ça permet également de soutenir l'association en faisant un don pour pouvoir lire ce rapport si vous voulez vous renseigner un petit peu plus en détail. Et vous pouvez également aller voir les autres rapports un petit peu plus spécifiques, par exemple sur la loi asile-immigration, sur les femmes afghanes, sur la situation en Iran pour les femmes, également sur tout ce qui est nouvelles technologies et intelligence artificielle qui pourrait menacer nos droits. Je vous invite donc à vous rendre sur le site amnestyinternational.fr où vous pourrez également trouver des pétitions à signer pour soutenir l'association, pour soutenir les droits humains, et essayer de faire un petit peu la différence auprès des institutions internationales et auprès de notre gouvernement. Moi, je vous souhaite une bonne journée sur Radio FM+, et je vous dis à la semaine prochaine.